France Inter. Le 7-9.
Il est 7h47. Courtoisie, conviction, écoute d'autrui. C'est le débat écho du vendredi. Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour.
Bonjour, cher Nicolas.
Nous allons aujourd'hui reparler du rapport remis au président de la République mercredi par Jean Tirole et Olivier Blanchard, qui étaient tous deux les invités du 7-9 hier matin. Le rapport prend à bras le corps la question du climat, des inégalités, de la démographie. Et à travers lui, à travers ce rapport, nous allons échanger ce matin sur le rôle des économistes dans le débat public, les positions qu'ils prennent, les propositions qu'ils formulent. D'un mot pour commencer, avant d'en venir à cet aspect du débat, dites-nous Dominique, ce qui vous a intéressé dans le rapport Tirole-Blanchard, rapidement.
La première chose qui m'a intéressé, c'est qu'il s'est ouvert par le climat, sur la question du climat. Quand on demande des économistes, une batterie d'économistes, une trentaine d'économistes du monde entier, je vais revenir dans un instant, quel est le premier défi? Alors je ne pense pas que ce soit le hasard, ils mettent cette question climatique en tête. On se souvient, on l'évoquait dans le couloir avec Thomas Piketty, le rapport Stern, c'était en 2006 ou 2007 de souvenir, était un rapport qui a fait beaucoup de bruit, mais il était sur le changement climatique, sur l'économie climatique. Et donc là, on a quelque chose.
Une évolution très profonde.
La deuxième chose, c'est que ils ont une approche très holistique des problèmes.
Traduisez.
Très large des problèmes quand on parle des inégalités. Il y a beaucoup de portes d'entrée. On y reviendra peut-être. La question fiscale n'est qu'un élément parmi d'autres. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est une commission, et je finis là-dessus, qui est très très idéologiquement très large, et donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire vous avez des libéraux comme le français Philippe Aguillon, mais vous avez aussi Paul Krugman qui est quand même très à gauche aux États-Unis, vous avez Danny Rodrigue qui est critique sur le libre-échange, vous avez Larry Summers qui a été conseiller de Clinton et d'Obama, donc c'est très large. On ne peut pas dire
Thomas Piketty, en fait.
On ne peut pas dire non, parce qu'il a des proches, il a des proches qui étaient dans cette commission.
Ah, l'école était représentée. La réserve, Dominique, et puis.
La réserve, c'est que c'est plus une boîte à idées qu'une boîte à outils. C'est-à-dire que c'est pas très très concret. On ne sait pas de combien le prix de l'essence doit augmenter à la pompe, pour parler très concrètement, pour savoir à quel moment mon comportement en tant qu'automobiliste va changer.
Thomas Piketty, lecture du rapport, qu'est-ce qui vous a intéressé?
Quand même juste sur le point. Bon, la commission est quand même un peu monocolore politiquement. Alors, Dominique, vous, comme vous êtes un expert, vous savez repérer mille nuances de macronisme, de droite, de gauche, tout ça, mais il reste que par rapport à l'échiquier politique général français tel qu'il se manifeste dans les urnes dimanche dernier, ce dimanche-là, on est quand même sur un centre-droit libéral assez bien. Mais ce qui n'est pas un problème, c'est normal qu'un
Daniel
président...
Daniel Cohen, centre-droit libéral...
Mais c'est pas... À nouveau, je pense que ce serait injuste de faire ce rapport, parce que c'est normal, chacun fait appel aussi aux personnes dont il s'envoie. Ce qui m'embête plus, moi, c'est le côté monodisciplinaire. C'est-à-dire, pour le coup, 26 économistes sur 26. Quand il s'agit de réfléchir sur le climat, sur le vieillissement, sur les inégalités, ça, pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des spécialistes de démographie, des spécialistes de l'environnement, des sociologues, des historiens. C'est-à-dire que cette façon de mettre 26 économistes pour réfléchir entre eux sur des grands défis globaux, moi, je trouve, c'est un peu dépassé.
C'est très intéressant d'un point de vue académique, disciplinaire, en n'ayant que des économistes.
Je pense que ça donne une approche qui est parfois, disons, un peu centrée sur des solutions un peu mécaniques. Voilà, les Français n'ont pas compris la taxe carbone, on va mieux leur expliquer, ça va mieux se passer la prochaine fois. Enfin, disons, je trouve qu'on reprend un peu les mêmes recettes. Et puis, à nouveau, il y a besoin de compétences sur ces questions qui sont diversifiées. C'est pas pour dire que les économistes qui sont dans cette commission n'ont rien à apporter. Ils ont quelque chose à apporter.
Après, pluridisciplinaire.
Il y a aussi des économistes qui ont eux-mêmes des approches un peu plus pluridisciplinaires. C'est vrai que Jean Tirole, Olivier Blanchard, c'est quand même, c'est assez marqué.
Il y a des choses qui vous ont intéressé le rapport.
Cela dit, c'est vrai que là où Dominique a raison, c'est qu'ils ont fait venir de l'étranger beaucoup de personnes, là, pour le coup, un peu plus diversifiées que les personnes françaises, qui ont apporté des choses qu'on n'a pas forcément encore discutées, d'ailleurs, dans le débat. Par exemple, moi, j'ai repéré des propositions qui, j'ai l'impression, viennent de Danny Rodrigue sur la question de mettre le changement technologique davantage au service de l'emploi, de la qualité de l'emploi. Et par exemple, il y a des propositions, alors qui ne sont pas complètement abouties.
Avec l'intelligence artificielle.
Il y a des propositions disant le crédit d'impôt recherche, par exemple, il faudrait que ce soit conditionné à la qualité de l'emploi, au nombre d'emplois qui sont créés. Alors, ils vont pas jusqu'au bout d'une proposition. Il y a l'idée de créer des agences régionales pour l'activité économique qui vérifieraient avec la Banque publique d'investissement. Alors, c'est dit en passant, on a l'impression que c'est Daniel Rodrigue qui a mis ça dans le rapport et c'est pas vraiment fouillé jusqu'au bout. Et c'est vrai que là-dessus, je rejoins tout à fait Dominique, qui est que le rapport ne fait pas vraiment de propositions abouties sur les différents sujets.
Allez, avançons dans ce débat. Je le disais, c'est le président de la République qui a voulu cette commission. Et c'est au président de la République que Jean Tirole et Olivier Blanchard ont remis leur rapport. Vieille question, Dominique, le savant, le politique, est-ce le rôle des économistes de conseiller le pouvoir politique?
Bon, heureusement, vous ne posez pas la question à quoi sert un journaliste économique, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de répondre à la question à quoi servent les économistes. Je ne me considère pas comme un économiste, mais comme un journaliste économique. Écoutez, la réponse traditionnelle à ce genre de questions, c'est les économistes sont là pour éclairer le pouvoir politique. Bon, on va pas... La façon dont l'opinion l'entend, c'est... Quand on demande à quoi servent les économistes à l'opinion, l'opinion répond... savoir ce qui se passe. Dites-nous, est-ce que la bourse va monter, va descendre, les prix de l'immobilier vont monter, vont descendre, etc. Les économistes sont plutôt là pour apporter une analyse des enchaînements, des conséquences des choses. Mais il me semble, moi, que la vraie question, c'est est-ce que les économistes sont là pour nous parler du souhaitable ou du possible. Alors c'est aussi la même chose pour les politiques, naturellement. Mais c'est une grande question et oui, donc je pense qu'il y a vraiment deux écoles, en fait. Alors il faut tout pour faire un monde, etc. Mais il y a deux écoles. Il y a les économistes qui sont proches des pouvoirs publics pour dire, voilà, compte tenu des éléments dont nous disposition politique, etc., voilà ce qu'on peut faire dans les marges disponibles. Et puis, il y a les universitaires qui sont plutôt dire, voilà ce qui est souhaitable. Mais le souhaitable doit se frotter au réel. Est-ce que c'est toujours le cas? Quels sont les champs possibles?
Et Thomas Piketty.
Ça me semble une question importante qui s'adresse notamment à Thomas Piketty.
C'est pour ça qu'il donne la parole, d'ailleurs.
Alors d'abord, les économistes sont très divers. Il ne faut pas les mettre tous dans une boîte parce qu'il y a des persuasions très différentes, surtout des méthodes de travail très différentes. Les frontières entre l'économie et les autres sciences sociales, à mon avis, ne sont pas si claires que ça. C'est-à-dire que la frontière entre l'économie, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, en tout cas, ne devrait pas être aussi rigide que certains se l'imaginent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a différentes façons de s'exprimer dans le débat public, y compris pour des économistes universitaires. Donc, il y a les commissions présidentielles, bon, c'est une chose. Il y a le fait d'écrire des livres, de s'adresser au grand public, aux citoyens. Bon, c'est vrai que je préfère plutôt la deuxième école. Mais
vous
en
êtes
même
plutôt
temps,
librairie que commission présidentielle.
Je pense que le débat démocratique, c'est vraiment l'appropriation par les citoyens qui finalement fait changer les choses. Et donc, c'est vrai que cette façon de s'adresser à le président, comme on a rappelé, c'est pas tellement. Mais en même temps, on en a aussi besoin. Enfin, donc, que mille fleurs fleurissent.
Vous êtes engagé dans des campagnes présidentielles aussi. Donc, vous êtes proche de la réalité politique aussi.
Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est le moment du débat public. C'est-à-dire, c'est pas de parler confidentiellement à un prince et d'essayer de le convaincre. Ça, honnêtement, ça m'intéresse pas tellement. Je trouve ce qui est intéressant, c'est le débat public. Et après, effectivement, il faut aussi s'engager au moment des élections parce que je trouve ça trop facile pour un universitaire de dire tous les candidats sont nuls, je reste dans mon bureau. Donc moi c'est pour ça que les personnes là de la commission qui se sont engagées dans la campagne d'Emmanuel Macron, souvent pour faire son programme, ça, je ne leur jette pas la pierre. Je pense que c'est plutôt une bonne chose.
Il y en a qu'un, en réalité, dans la commission, de tête. Il y a Jean Pisani-Ferry,
si vous regardez Philippe Aguillon, Christian Gaudier, vous savez, il y a une tribune dans Le Monde qui appelait à voter Macron au premier tour de la présidentielle, et beaucoup des personnes de la commission l'ont
fait.
Mais c'est pas une mauvaise chose, soyons bien clairs, Dominique, je le reproche absolument pas.
Sur la question théorique que posait Dominique, est-ce que l'économie, c'est imaginer le probable ou essayer de définir le possible, quelle est votre position?
Moi j'ai une vision, disons, très historique de l'économie. C'est-à-dire, moi, je pense tout ce qu'on peut espérer faire en économie comme science sociale, c'est d'essayer de repérer dans les périodes historiques précédentes, dans les processus historiques précédents, la diversité des trajectoires possibles. Par exemple, quand on a un problème de dette publique aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est, voilà, dans l'histoire, on a déjà eu un certain nombre de crises de la dette publique, voici comment on les a réglées, il y a une diversité de solutions. Moi, c'est ça sur lequel je veux insister. C'est-à-dire que, après, le choix est compliqué, parce que c'est des conflits entre groupes sociaux, je veux pas tout amener à la lutte des classes, mais enfin quand même, il y a des conflits entre groupes sociaux. Et quand on parle du climat, par exemple, là dans le rapport, je trouve qu'une des limites du rapport, c'est que je pense que s'il n'y a pas, selon moi, une autre répartition des richesses et quand même un autre système économique, on va vraiment avoir du mal à s'en sortir. C'est-à-dire la taxe carbone qui frappe tout le monde pareil. Et c'est ça, peut-être, moi, le reproche principal que je ferai au rapport, c'est qu'on revient à cette taxe carbone du début de quinquennat qui frappe absolument tout le monde pareil. Moi, je voudrais rappeler quand même quelque chose, c'est que si on regarde les émissions carbone, et il y a eu des recherches qui ont été faites par Lucas Chancel à l'École d'économie de Paris là-dessus, les 50% les plus pauvres en France sont déjà au niveau d'émissions qu'on voudrait voir atteindre l'ensemble de la population en 2030-2040. Alors que, par contre, les 10% les plus riches sont à trois fois le niveau d'émissions. Donc l'idée que vous allez frapper tout le monde pareil avec une taxe carbone qui frappe les petites émissions émissions et les grosses émissions de la même façon, je pense que ça ne marchera pas.
Dominique,
mais ce qui est intéressant et qui est à la fois dans le rapport et qui permet d'éclairer le débat sur le rôle des économistes, c'est je trouve que ça remet ce qu'ils écrivent, l'Église au milieu du village sur un certain nombre de sujets. Par exemple, la taxe carbone. Il est intéressant de noter qu'ils consacrent 200 pages ou 300 pages à la taxe carbone, à ses modalités. La Convention citoyenne pour le climat, dont on a tant parlé, avait refusé d'évoquer le sujet en disant ben, « c'est pas l'essentiel ». Les économistes, de toutes obédiences, je le redis et j'insiste, disent ben, « si, on ne fera pas sans augmenter enfin, ». Quand on dit « taxe carbone », ça veut dire « c'est parce que ça peut changer réellement les comportements, pas simplement le prix de l'essence à la pompe dont je parlais, mais le Royaume-Uni est sorti depuis 10 ans du charbon parce qu'il y a eu un système, alors taxe carbone, quota d'émission, etc., mais il y a eu un prix du carbone radical qui a fait que le charbon a quasiment disparu, 4% je crois maintenant dans la production d'électricité. Donc c'est un point essentiel. Le point église au milieu du village, quand vous regardez ce qu'est le rapport Blanchard-Tirole, il y a sur les inégalités 150 pages, sur la fiscalité des successions, il y a 6 pages. Donc, il considère.
Et une idée force. Il faut augmenter l'impôt sur les successions.
Il considère que ça n'est pas l'essentiel, qu'il y a beaucoup d'autres leviers. Et c'est ça qui est intéressant dans l'approche. C'est-à-dire, il n'y a pas. Alors, évidemment, c'est un peu une pierre que je jette dans votre jardin. La fiscalité, on en a souvent parlé ici.
Ah bon,
la fiscalité n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique économique. Mais il y a la microéconomie, il y a l'égalité des champs, il y a l'éducation. Et je trouve que c'est intéressant d'en remettre.
Sur l'impôt sur les successions, Thomas Piketty. On vous a cité d'ailleurs hier en interviewant Tirole et Blanchard.
Très bien, j'espère. Alors,
la question était ouverte. Pour être honnête, elle était ouverte.
Il ne faut pas en profiter. Alors donc, sur l'égalité des chances. Écoutez, ils disent plein de choses sur l'égalité des chances face à l'éducation. Enfin, le fait que sur les successions, que les enfants de pauvres, ce serait bien qu'ils aient un peu quelque chose, pas seulement les enfants de riches. Bon, au niveau des intentions, c'est plutôt, moi je trouve, allez-y, continuez, vous êtes dans la bonne direction. Après, ce qui m'embête en pratique, si vous voulez, c'est que ça reste quand même assez flou en termes de propositions. Et je pense, sur les questions d'égalité des chances, que ce soit par rapport à l'éducation, par rapport aux successions, c'est important de se donner des indicateurs objectifs où on peut ensuite vérifier ce qui a été fait ou pas. Et ça manque terriblement dans le rapport. C'est-à-dire, sur l'éducation, on est dans une situation où on a un niveau de ghettoisation sociale sur l'accès aux grandes écoles.
Mais ils disent qu'il faut mettre le paquet.
Oui, mais sauf que si vous ne fixez pas des indicateurs, moi je me bats vraiment beaucoup pour ça, je l'ai fait dans mon dernier livre, je continue de le faire. C'est-à-dire, si vous n'avez pas des indicateurs disant voilà, en fonction du niveau de revenu parental, la situation actuelle en termes d'accès aux grandes écoles, voici une cible qu'on veut atteindre. Sur les successions, pareil, actuellement, les 50% les plus pauvres en France reçoivent moins de 5% du total des successions. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Moi, je ne dis pas qu'il faut aller directement à 50%, je proposais qu'ils aient à peu près 20%. Avec leur proposition, on sera à 5,5%, à
6%. Dominique, le mot de la fin.
Mais Thomas, il rappelle en même temps, sur la fiscalité des successions, que la France est déjà le pays le plus taxé, où il y a
le
plus
pas taxé, c'est redistribué, Dominique, c'est très différent.
La question, c'est que l'opinion d'une manière générale trouve que le niveau des impôts en France est trop élevé sur la plupart des compartiments. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre.
Il est 8h, tout rond, on vient d'entendre les tops sur Inter. Je vous remercie infiniment pour ce débat qui était, une fois de plus, passionnant. France Inter.